actu boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Les courses à Compiègne, première course, combinaison gagnante du Quintet Plus, 5, 18, 4, 2 et 12. France Inter, 14h03, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Bonjour Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'unité italienne, deuxième partie. Cher Garibaldi, il vous faut 1 million de fusils, 1 million de cœurs et 1 million d'armes. Il vous faut aussi la grande levée des peuples, elle viendra. Votre ami Victor Hugo, 11 novembre 1863. Ans d'histoire. Au moment où l'Europe remet en cause la souveraineté des nations qui la composent, on oublie que toute l'histoire des deux derniers siècles est marquée au contraire par le triomphe des nationalités sur toutes les forces qui niaient autrefois leur existence et leur volonté d'indépendance. C'est ainsi que sur les ruines des impérialismes autrichiens, allemands, turcs, anglais, français ou russes, on a vu apparaître des États nouveaux. Parmi eux, l'Italie, qui, il y a 130 ans à peine, a conquis son indépendance et réalisé son unité, derrière le roi du Piémont, Victor Emmanuel II, ou avec les chemises rouges du plus célèbre artisan de l'unité italienne, Giuseppe Garibaldi.
Garibaldi si è imbarcato stanotte a Quarto con 1000 volontari su 2 piroscafi trafugati da Bixio alla Rubatino, punto. Pare che il generale voglia far vela per la Sicilia, punto. L'emozione negli ambienti politici e consolari è enorme, punto. Invierò dei...
Vai, prendi gli altri dispacci.
Un acte de piraterie a été commis de 11 mètres. Une bande d'hommes armés a débarqué sur la côte de Marsala. D'après les derniers renseignements, cette bande, qui comptait environ 800 hommes, est commandée par Garibaldi.
Garibaldi !
C'est la révolution.
Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Salve Regina Mater Misericordiae Vita Lucedo Mes Nostra Salve. Ad te clamamus et
exsulet. Gilles Pécou, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du Guépard de Visconti, le débarquement de Garibaldi en Sicile le 11 mai 1860, une étape importante de cette unité italienne qui avait échoué, on s'en souvient, en 1848, nous en avons parlé avec vous vendredi dernier, mais une unité qui allait se réaliser, donc, 11 ans plus tard, grâce en particulier à deux hommes très différents de tempérament et de conviction, le républicain Garibaldi, mais aussi, vous en parlez beaucoup dans un livre, le premier ministre du roi de Piémont, Victor Emmanuel II, qui était Cavour, et moins connu peut-être, mais peut-être plus important encore que Garibaldi dans l'unité italienne.
Je ne sais pas s'il est plus important, mais... C'est vrai qu'il est beaucoup moins connu, beaucoup moins populaire au-delà des années de l'unité. En tout cas, il est très important politiquement. C'est le représentant d'une vieille noblesse piémontaise qui entre en politique assez tard. Il fait partie de cette génération de paroles et d'actions du Risorgimento qui, en fait, se révèle au lendemain de 1848. Un peu avant, puisqu'il crée ce journal, le Risorgimento, en 1847, mais... Il arrive comme chef, comme membre de l'exécutif et chef du gouvernement dans les années 1850. Vous avez raison, son nom reste véritablement attaché à l'unité italienne. On l'appelle d'ailleurs le père de l'unité. En cela, c'est vrai qu'on reconnaît son importance.
Et surtout celui qui a tiré les conséquences des échecs précédents à la tête du gouvernement piémontais sous l'autorité de Victor Emmanuel et du roi de Piémont. Il la prépare. Par exemple, il fait du Piémont un des 10 États d'Italie, le plus puissant des États italiens de l'époque. Principal. Et puis surtout, il lui donne un allié. On se souvient, on l'a dit vendredi dernier, que ce qui avait manqué justement aux Italiens quand ils se sont soulevés en 1848, c'était une aide extérieure. Ils se sont retrouvés tout seuls face aux Autrichiens. Là, ce que fait Cavour, c'est de se tourner vers la France. D'abord, il fait participer le Piémont à la guerre de Crimée aux côtés de la France. Et puis surtout, il va chercher le soutien de Napoléon III. Oui. Pourquoi ?
Oui, l'idée de Cavour, c'est que l'Italie doit être à la fois libérée de l'étranger et unifiée. Que les deux choses vont de pair. Deux, que ce processus doit être un accomplissement du libéralisme à l'intérieur comme à l'extérieur. Que le seul État qui qui est capable de faire ça, c'est justement le sien, le royaume de Piémont. Simplement,
Piémont-Sardaigne. Le Piémont-Sardaigne fait partie de, partie aussi de ce royaume.
Du reste, quand on désigne les Piémontais comme armée, on dit les Sardes, on dit l'armée sarde. Que le seul État capable de faire ça, c'est le Piémont-Sardaigne, et que pour ce faire, les moyens sont certes le libéralisme économique, politique interne, mais aussi l'internationalisation, la diplomatie, l'aide militaire de l'Europe. Et pour cela, eh bien, Cavour réussit à obtenir le soutien des Français de Napoléon III.
Pourquoi Napoléon III les soutient-il ? On avait dit aussi qu'il avait participé au soulèvement des carbonari italiens, des charbonniers, cette société secrète qui s'était manifestée au début du XIXe siècle. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts que cela ?
Bien sûr. À moyen terme, il y a comme intérêt le fait de pouvoir maîtriser un peu le sort de ce que sera la péninsule en l'aidant à s'unifier, en l'aidant à se construire, politiquement. Donc, ce faisant, Napoléon III est certain de pouvoir avoir un droit de regard sur la péninsule, sur cette espèce de confédération. Mais à court terme, il y a une transaction territoriale. C'est que Napoléon III veut récupérer pour la France Nice et la Savoie.
Et oui, on oublie qu'effectivement, elles ne sont devenues françaises qu'au XIXe siècle, grâce à cette intervention française, Nice et la Savoie. Alors, il y a une entrevue secrète, dans le détail de laquelle on n'a pas le temps d'entrer, mais qui se déroule à Plombières. Cavour va rencontrer secrètement Napoléon III dans cette station thermale des Vosges. Il y a un échange qui se fait. Napoléon III s'engage à faire intervenir la France si jamais le Piémont est attaqué par les Autrichiens. Alors, du coup, Cavour, que fait Cavour ? Il provoque évidemment une guerre contre l'Autriche. L'Autriche tombe dans le panneau. Elle décrète un ultimatum aux Piémontais pour leur demander de désarmer. Comme ils refusent, ils envahissent. Et c'est là qu'intervient la France, Napoléon III, militairement, avec deux grandes batailles, Gilles Pécou, c'est-à-dire les batailles qui portent aujourd'hui des noms de boulevard à Paris. C'est Magenta et Solferino.
Oui. Solferino, le 24 juin 1809, est une très grande date du Risorgimento italien, de ce qu'on appelle nous en France la guerre d'Italie, et en Italie la deuxième guerre d'indépendance. C'est l'une des batailles décisives de cette épopée militaire, mais une bataille, on pourrait dire, pratiquement sans lendemain. Car au-delà, après la victoire de Solferino, Napoléon III décidera de se retirer.
Alors comment expliquer ça ? Parce que les Italiens ont considéré ça comme une trahison. Il ne les a pas prévenus. Il n'a pas prévenu les Piémontais, ses alliés.
Ce ne serait pas la seule de la famille, disent les Italiens. Après tout, Napoléon III n'est que le neveu de Napoléon Ier et Villafranca. Et Villafranca ne fait que suite à Campo Formio, d'une certaine façon. Alors, il y a un certain nombre de raisons qui relèvent soit des raisons d'ordre politique intérieur. Napoléon III se heurte à une opposition de plus en plus vigoureuse. Une opposition à droite. Les catholiques qui ne sont pas très heureux que l'empereur mène la guerre contre le pape. Car mener la guerre pour le Piémont, avec le Piémont, mener la guerre contre une puissance catholique, c'est en réalité mener la guerre contre le pape et contre le pouvoir temporel. L'unité de l'Italie, dit Cavour, ne se fera que contre le pape. Première raison, il y a une opposition intérieure de gauche aussi, de socialistes, de républicains, de libéraux même, de gauche, qui considèrent que la guerre a assez duré, qu'il y a eu trop de victimes. Solferino fut une boucherie.
C'était une boucherie, c'est de là qu'est née, il faut le rappeler, la Croix-Rouge.
Dunant était à Solferino parce qu'il cherchait à voir l'empereur pour obtenir un marché en Algérie, pour des raisons strictement économiques. Et puis, il y a des raisons stratégiques. Après Solferino, en réalité, la stratégie ne donnait pas de façon certaine la victoire assurée aux franco-sardes. Et enfin, il y a le risque, la menace de mobilisation des Prussiens sur la rive droite du Rhin.
Alors, la guerre s'arrête. Le Piémont obtient malgré tout, puisqu'après tout, ce sont quand même deux victoires françaises alliées des Piémontais. Le Piémont obtient malgré tout la Lombardie, mais que cela, l'unité est loin d'être achevée, et les Italiens sont furieux de ce qu'ils considèrent donc comme une trahison française, et parmi eux Garibaldi, qui mobilise une petite armée pour envahir la Sicile et le royaume de Naples, dont le roi François II est hostile à l'unité italienne, alors que beaucoup de Siciliens rejoignent les forces de Garibaldi quand elles débarquent en Sicile le 11 mai 1860.
Je pars dans la montagne, Ficuzza. De grandes choses se préparent, et je n'ai pas envie de rester les bras croisés à la maison.
Tu es fou de te mettre avec ces gens-là. Ce sont des bandits. Un Falconeri doit être avec nous. Pour le roi.
Pour le roi, d'accord. Mais quel roi ? Est-ce que tu veux me le dire ? Pour celui qui veut faire l'unité de l'Italie, oui. Mais le petit François, Dieu le bénisse. Non, mon oncle, non.
Alors tu t'imagines que le roi piémontais, qu'on appelle l'honnête homme, vaut vraiment mieux que l'autre.
À bientôt, mon oncle. Je reviendrai avec les trois couleurs.
Du rouge et du vert à la place de notre fleur de lys d'or sur son champ immaculé. Qu'est-ce que vous espérez de cet affreux mélange?
Attends, et tu verras que j'ai raison.
Illusion. Adieu. À bientôt.
Et c'était un autre extrait du Guépard avec Alain Delon dans le rôle de ce fils de grand propriétaire sicilien qui rejoint les chemises rouges de Garibaldi en 1860. Garibaldi qui est sans doute le plus célèbre et le plus populaire des artisans de l'unité italienne et dont on oublie d'ailleurs qu'il avait, il s'était battu aussi pendant des années en Amérique latine. C'était une espèce de Lafayette français, Garibaldi, oui. Gilles Pécou.
Oui, lorsque Garibaldi arrive en Italie, au moment de la guerre de 1848, et puis, comme nous venons de l'entendre pour son épopée d'Émile, ce n'est pas seulement un héros italien, c'est le héros des deux mondes. C'est celui qui a combattu pour les peuples opprimés d'Amérique latine, qui a combattu en Uruguay, au Brésil, en Argentine, contre les dictateurs d'Amérique du Sud. C'est l'artisan du siège de Montevideo, déjà, qui a déjà attiré l'attention d'Alexandre Dumas, dont on oublie qu'il est l'un des premiers écrivains français à consacrer une œuvre absolument méconnue, introuvable, qui est la Nouvelle 3 au siège de Montevideo.
Alors ce par quoi il est surtout connu, c'est cette fameuse expédition des Mille qui va le conduire du nord de l'Italie jusqu'en Sicile, avec ses fameuses chemises rouges, oui. Hein, c'était l'uniforme de ces gens-là, qui étaient des républicains d'ailleurs, hein, pour l'essentiel, d'entre eux.
Pas tous, qui étaient des volontaires favorables à l'unité de l'Italie, qui relevaient plus de ce qu'on appellera un risorgimento démocratique et populaire, dont plus volontiers républicains. Mais certains n'avaient pas réellement réfléchi ou ne souhaitaient pas réfléchir sur la forme du régime. Et d'ailleurs, cela explique que très rapidement et très facilement, malgré tout, Garibaldi ait réussi à convertir son armée des Mille et à favoriser son allégeance dynastique.
Alors il débarque donc en Sicile. Alors il faut rappeler quand même qu'il y a eu un rôle extraordinaire de Cavour qui fait preuve d'une très grande duplicité.
D'une grande habileté,
mais il fait semblant de condamner cette expédition et au contraire, il va s'en servir. En fait, en douce, il l'aide et il va s'en servir en poussant, oui. S'en servant de prétexte pour intervenir alors que Garibaldi, à part que la Sicile remonte vers le nord, lui, il envoie les troupes piémontaises sous prétexte d'empêcher, ça aux yeux de Napoléon III, Garibaldi de proclamer la République
oui.
à Rome.
Oui, oui. Cavour, comme chef de l'exécutif dans le royaume libéral du Piémont, n'a pas non plus tout de suite intérêt à voir se lever une armée d'irréguliers. Les Garibaldiens sont des irréguliers. C'est une armée alternative. La grande tradition du garibaldinisme, c'est le volontariat. Du reste, un volontariat que l'on verra même comme volontariat international. Donc Cavour n'a pas intérêt, mais dès lors qu'il voit que cela marche, que cela fonctionne, il utilise très facilement, aisément, le mouvement militaire et populaire représenté par l'expédition des Mille. Cela dit, habile, il ne l'est pas jusqu'au bout, en réalité, car il n'empêchera pas le conflit avec Garibaldi, voire ses échos au sommet.
Oui, mais en attendant, là, on est en 1860, Garibaldi a donc débarqué en Sicile, oui. il est arrivé même jusqu'à Naples,
oui.
Et à ce moment-là, les troupes piémontaises viennent du nord,
le rejoignent,
sous prétexte, soi-disant, de l'arrêter, oui. Mais qu'est-ce qu'elles font au passage? Eh bien, elles s'emparent, évidemment, oui. De tous les territoires qu'elles traversent, et notamment les États du Pape,
oui.
Les marches, l'Ombrie, etc.
Oui.
Et alors, on se demande ce qui va se passer lorsque les deux armées, celle qui vient du nord, les Piémontais, et les chemises rouges de Garibaldi vont se rencontrer, et ça se passe précisément au nord de Naples. Garibaldi qui accepte de renoncer à la République dont il rêve pour que son pays soit réunifié sous l'autorité du roi de Piémont, Victor Emmanuel II, qui ce jour-là devient le premier roi d'Italie. C'était le 26 octobre 1860 à Teano, au nord de Naples.
Come state, caro Garibaldi? Bene, maestà. E voi?
Comment allez-vous, cher Garibaldi?
Sire, quando ho toccato il suolo siciliano,
j'ai pris la Sicile et assumé la dictature en votre nom. Je réalise aujourd'hui mon vœu le plus cher. Je vous remets le pouvoir sur des millions d'Italiens tourmentés jusqu'ici par un despotisme féroce.
Grazie. Viva il re! Vittorio Emanuele, il nostro re, re d'Italia.
Vittorio, Vittorio, se
entendez Fratelli d'Italia, composé en 1847, on en a parlé vendredi par Manelli, qui est devenu l'hymne national italien. On a entendu aussi, juste avant, un extrait du film Viva l'Italia de Roberto Rossellini, oui. La fameuse rencontre de Teano entre Garibaldi, qui vient du Sud, Victor Emmanuel II, qui devient roi d'Italie. Garibaldi accepte que la nouvelle Italie devienne une république. Il y a un petit mot peut-être qui peut surprendre, oui. C'est le mot dictateur.
Oui, vous avez entendu dans cet extrait qu'il y avait le mot dictature en contrepoint de celui de despotisme. Parce que tout simplement, le mot Garibaldi est nommé dictateur de Sicile, ce qui veut dire, en usant du mot hérité de l'Antiquité, qu'il exerce à titre temporaire le pouvoir exécutif en Sicile, qui lui est remis de façon populaire dans la représentation qui est faite.
D'ailleurs, c'est tellement populaire ce qui se passe que, immédiatement, alors que maintenant, presque toute l'Italie, pas toute, mais on verra, mais presque toute est réunifiée, elle est réunifiée par des référendums, un peu partout.
Oui, là c'est une chose très importante. On exerce suffrage universel masculin à l'occasion de plébiscite. Le mot plébiscite en Italie n'a pas la connotation négative qu'il a en France. Du reste, il suffit de se promener dans les villes italiennes pour voir qu'il y a des rues du plébiscite dans les principales capitales de province, dans les principaux chefs-lieux de département. De quel plébiscite s'agit-il ? De la ratification au suffrage universel masculin du rattachement des provinces conquises ou libérées au nouveau royaume italien. La question est posée par oui ou par non. Acceptez-vous de faire partie de l'Italie du roi Victor Emmanuel, oui ou non ? Le plébiscite, évidemment, donne la grande majorité, la très grande majorité au suffrage de rattachement, ce qui a fait dire que nous étions là dans un exercice biaisé du suffrage universel. Parce qu'en réalité, les paysans ont voté comme leurs propriétaires, qui leur disaient, pour votre prospérité, allez avec le royaume d'Italie.
Alors donc, l'Italie est née, hein, l'Italie telle qu'on la connaît à peu près, avec comme capitale au début Turin,
oui.
Puis Florence.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'il manque deux villes essentielles à cette unité encore, c'est Rome, sous l'autorité du pape,
oui.
Qui reste la ville de Rome, qui reste sous l'autorité du pape, et Venise. Venise qui est sous contrôle, sous occupation italienne encore.
Oui, oui. Lorsque le royaume d'Italie est proclamé, non pas directement à Teano, mais lorsqu'il est proclamé à Turin, il manque, pour que la péninsule soit véritable, corresponde au nouveau royaume, deux régions, la Vénétie et le Latium. Il faudra deux guerres, une guerre et une expédition pour que l'on récupère la Vénétie, la troisième guerre d'indépendance en 1866 et l'expédition de Rome en septembre 1870.
Alors 66, il faut rappeler le rattachement de la Vénétie, de Venise,
oui.
De toute la région de Venise à l'Italie, c'est parce que tout simplement c'est un territoire autrichien,
oui.
Et qu'à ce moment-là, en 1866, il y a une guerre entre la Prusse et l'Autriche, les Italiens se s'allient avec la Prusse et c'est grâce à la victoire prussienne en 1866 que la Vénétie va donc être rattachée à l'Italie. Alors, il reste Rome. Et Rome, ça, c'est plus embêtant parce que Rome est défendue par qui ? Eh ben, par la France. C'est Napoléon III qui empêche que Rome, en étant rattachée à l'Italie, en devienne la capitale. Quand se fait-il que Napoléon III, qui perd ainsi tout le bénéfice de la popularité qu'avait pu lui apporter son soutien aux Italiens, empêche les Italiens de s'emparer de Rome?
Là aussi, pour plusieurs raisons, d'ordre de politique intérieure, parce que Napoléon III a ménagé, a compté avec l'opinion catholique française, les milieux conservateurs et même parfois libéraux modérés qui sont hostiles à la constitution d'une unité contre le pape. Même Thiers, tout libéral qu'il est, était profondément hostile à la création d'une unité italienne. Je le dis au passage. Pour le reste, pour des raisons de politique extérieure, Napoléon III entend continuer à jouer un rôle important comme puissance d'arbitrage, comme puissance de médiation, mais en réalité comme puissance internationale qui se fait contre une unité qui est en train de lui échapper.
Et ce sont des soldats français qui vont défendre Rome contre des tentatives faites par Garibaldi pour s'emparer de la ville.
Oui.
Il va être battu dans une bataille qui s'appelle, je crois, Mantana.
Oui.
Furieux d'ailleurs, Garibaldi va dire « Mantana a effacé Magenta ». Et c'est finalement la guerre de 1870 qui oblige Napoléon III contre la Prusse, qui oblige Napoléon III à retirer ses troupes d'Italie, qui va permettre justement au roi de Piémont de s'emparer de la ville de Rome le 20 septembre 1870.
Victor Emmanuel, ça y est, c'est décidé. 35 000 hommes avancent dans les états pontificaux en direction de Rome. Il y a 5 divisions. dont deux ont été confiés à des têtes garibaldiens, Bixio et Cosenz.
Ben, il se passe que c'est la révolution.
Auriez-vous peur des Piémontais?
Ils sont là, les Piémontais, tu les as
vus? Oui, la porte Pia. Tu sais, maman, les Piémontais sont entrés dans la ville.
Et comment ils sont, les Piémontais?
Ils sont grands, Regina. Ils font bien 2 mètres.
Alors tout le monde a sorti des drapeaux, des bannières. Oh, on est entièrement pavoisé à Augusto, si tu voyais ça. À toute volée, les cloches sonnent. À toute volée.
C'était un extrait de Rome libérée, un téléfilm d'Alfredo Giannetti avec Anna Magnani et Marcello Mastroianni. Rome qui devient enfin capitale de l'Italie réunifiée. Rome d'où le pape s'en va d'ailleurs. Le pape qui en était le souverain et qui s'en va. Enfin, il va rester au Vatican, mais il a refusé pendant des années de reconnaître Rome capitale de l'Italie.
Jusqu'en 1929, tu restes la question romaine, ce qu'on appelle la question romaine, c'est-à-dire le puissant différent qui divise l'opinion catholique, l'Église de Rome et l'État nouveau italien, fait que le pape se considère comme, je cite, « prisonnier en ses États ». Pourquoi ? Parce que la proclamation de Rome capitale signifie que Rome, capitale d'Italie, n'est plus la capitale des États temporel du pape. Le pape n'est plus le pape roi, n'est plus un souverain temporel. Il est simplement, si j'ose dire, le souverain spirituel de catholique.
Alors, Gilles Pécou, on peut dire qu'à ce moment-là, pour l'essentiel, l'unité italienne est faite, mais aux yeux d'un certain nombre d'Italiens, il reste encore des territoires qui doivent être rattachés à l'Italie. Et ça, il y en a quelques-uns que l'Italie va tenter de récupérer d'ailleurs en participant à la Première Guerre mondiale.
Il reste encore des terres qui appartiennent à l'Autriche et qui sont considérées comme italiennes parce qu'italophones ou de tradition historique italienne, des territoires du nord de la Vénétie, le Haut Adige, le Trentin, des villes comme Trieste qui appartiennent à l'Autriche. Ces terres sont dites terres irrédentes, non libérées. La Première Guerre mondiale apparaît en effet pour un certain nombre des gens qui s'engagent pour la guerre, pour un certain nombre des interventionnistes, comme un moyen de récupérer ces terres. D'ailleurs, est-ce un hasard si l'on désigne la Première Guerre mondiale quelquefois comme la 4e guerre d'indépendance du Risorgimento?
Parmi ceux qui la désignent de cette manière, vous citez Mussolini. Mussolini qui a essayé de récupérer pour son compte ce fameux Risorgimento, cette renaissance italienne née, on l'a dit vendredi, au début du 19e siècle, et qui d'ailleurs participera activement, était pour l'intervention de l'Italie, aux côtés d'ailleurs de la France à l'époque, contre l'Allemagne et l'Autriche.
Oui, nous parlons de Mussolini, le Mussolini interventionniste des débuts de l'année 1915, qui a quitté les rangs du Parti Socialiste, parce qu'il est favorable à la guerre.
Souvent,
il était socialiste, parce que, et ce Mussolini-là n'est pas profondément ou n'est pas plus garibaldien qu'un autre. Puis le Mussolini Duce est le Mussolini à la tête de l'État fasciste qui va orchestrer de main de maître du reste la récupération des pères de l'unité. Et quel héros plus populaire, plus facile à utiliser pour les fascistes que Mussolini, que Garibaldi. Garibaldi au-dessus des partis, comme Mussolini et le fascisme. Garibaldi proposant la synthèse entre le régime monarchique, le Risorgimento monarchique et le Risorgimento populaire. Enfin, Garibaldi, combattant, patriote, combattant de la nation. Mussolini oublie que Garibaldi est aussi le promoteur du grand internationalisme.
Ouais. Oui, parce qu'il y a des brigades Garibaldi qui vont se battre dans la résistance aux côtés de la résistance française. D'ailleurs, Garibaldi lui-même, il faut le rappeler, en 1870, était venu se battre en France.
Garibaldi est venu se battre en France dans la guerre franco-prussienne. En 1915, il y a un bataillon de Garibaldiens levé par l'un des fils et les petits-enfants de Garibaldi qui va combattre dans l'Argonne et jusqu'à une date récente. Il existe encore des combattants garibaldiens de la Seconde Guerre mondiale qui célèbre, commémore le nom de Garibaldi, dont ils sont issus. L'an dernier, à Toulouse, on a inauguré un buste à Garibaldi, un buste à l'honneur de Garibaldi, et ce sont les Garibaldiens de Toulouse, je cite cet exemple.
Il y en a d'autres. Hein,
et il y en a tant d'autres.
Alors, vous savez que, enfin, je l'ai lu dans votre livre, Gilles Pécou, juste après l'unité, en 1870, même s'il n'est pas totalement achevé, il y avait un partisan de cette unité qui s'appelait Massimo D'Azeglio, qui disait l'Italie est faite, il reste à faire les Italiens. Oui. On peut se demander, est-ce qu'ils sont faits, les Italiens? Je veux dire, par là, aujourd'hui encore, il y a un très grand fossé entre le Nord riche et le Sud pauvre. Il y a la fameuse Ligue du Nord qui parle d'autonomie du Nord par rapport au reste de l'Italie.
Mais la Ligue du Nord et tous les sécessionnistes contribuent à achever l'unité de l'Italie par défaut. Parce que en montrant la possibilité d'une sécession, d'une rupture de l'unité, en fait, ces mouvements contribuent, je le disais, à enraciner le besoin historique de nation, de tradition italienne. Pour le reste, bien sûr qu'il reste de très très grandes divisions, de très grands obstacles à l'unité italienne. Ils sont sociaux, ils sont territoriaux, ils sont culturels.
Merci Gilles Pécou. Je rappelle, pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre. C'est un livre destiné en principe aux universitaires, mais qu'on peut très bien lire quand on ne l'est pas ou quand on n'est pas étudiant. Naissance de l'Italie contemporaine, qui a été publié aux éditions Armand Collin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Viva l'Italia de Roberto Rossellini, disponible en DVD chez France Vidéo Distribution. Le Guépard, bien sûr, de Visconti, disponible en DVD chez Pathé. Et Rome libérée, un téléfilm d'Alfredo Gianetti, donc avec Anna Magnani et Marcello Mastroianni. Je signale également, Gilles Pécou, que vous organisez avec Michel Espagne, les 18 et 19 mars prochains, à l'École Normale Supérieure rue d'Ulm, un colloque intitulé « Allemagne, France, Italie et Grèce, philhellénisme et transfert culturel ». Toutes ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. Merci aux chemises rouges qui m'ont aidé à préparer ces 2000 ans d'histoire, Alain Stram, Olivier Daligo, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, et à la réalisatrice Anne Tomilac. Demain...